table, un petit schéma simple qui va aider à la compréhension de ce que nous allons partager ces prochains mois. J'aimerais vous inviter maintenant à ouvrir votre Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens, où nous voulons lire au chapitre 5, épître de Paul aux Éphésiens, où nous voulons lire au chapitre 5, les versets 22 à 33. Éphésiens 5, 22 à 33. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Le titre de notre message de ce matin, le genre humain et le couple créé à l'image de Dieu. Et j'aimerais partager avec vous quelques pensées sur le thème suivant, les relations dans le genre humain, selon Dieu, en particulier dans le couple. Un jour, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alors Dieu créa l'homme et la femme à sa ressemblance. Il créa Adam de la poussière de la terre, mit en lui le souffle de vie, et il devint une âme vivante. Ensuite, il forma Ève à partir d'une côte de l'homme, et Adam dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Il l'appela femme parce qu'elle avait été prise de l'homme. Ainsi Dieu forma le premier couple et dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, c'est-à-dire un seul couple, une entité indivisible et inséparable. Il y aurait beaucoup à dire sur la ressemblance de l'humain avec le divin, mais pour ce matin, je me limiterai à ce qui est utile et nécessaire pour le développement de notre sujet particulier, la relation dans le couple selon le modèle divin. Mais pour mieux comprendre la volonté de Dieu à ce propos, il n'est peut-être pas inutile de considérer ou de reconsidérer la réalité divine de laquelle l'homme est l'image, la représentation de Dieu sur la terre, afin d'en tirer les conséquences pour notre vie chrétienne, notre vie personnelle, notre vie de couple, de famille et d'église. Et ceci nous amène à notre premier point, que j'appelle les ressemblances. Il n'y aura qu'un seul point, les ressemblances avec deux éléments. Premier élément, par rapport aux ressemblances, une même condition de vie dans le genre humain comme dans l'être divin. La ressemblance avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit est frappante. De même que le Fils est issu du Père éternellement, de même la femme est tirée de l'homme. Et de même que le Saint-Esprit procède et du Père et du Fils, de même les enfants portent la marque et du Père et de la Mère. La pensée de Dieu en cela consiste à créer l'humain individuellement avec sa personnalité qui lui est propre, afin que chaque être humain soit distinct de l'autre, mais provenant d'une seule et unique nature humaine, une seule souche, celle d'Adam, créé à l'image de Dieu, selon le modèle divin, un seul Dieu en trois personnes. Il y aura donc une essence fondamentale, provenant d'une substance originale, un commencement avec Adam, et au travers de lui et de sa femme, un développement formant une humanité innombrable, et puis enfin, un aboutissement dans l'immortalité, puisque l'âme possède une âme éternelle dans laquelle Dieu a mis la pensée de l'éternité. Par conséquent, tous les hommes sont égaux. Ils ont tous la même valeur aux yeux de Dieu. Ils sont tous aimés de Dieu, indépendamment de leurs particularités individuelles et personnelles, puisqu'ils proviennent tous d'un seul, Adam, lequel a été créé par Dieu, non pour la mort, mais pour la vie. C'est ici l'unité et la diversité qui fait vivre. Car imaginez Adam sans sa femme, le genre humain se serait rapidement éteint. Ou imaginez encore Adam et Ève sans enfants. L'humanité n'existerait pas, vous et moi non plus. Il faut remarquer ici que l'homme a bien été créé à l'image de Dieu, mais que Dieu n'est pas à l'image de l'homme. En effet, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit sont bien évidemment unis par une même essence divine, vivant par la même substance ou nature divine, possédant les mêmes attributs, et ils sont effectivement trois personnes distinctes l'une de l'autre, sans ambiguïté ni confusion possible. Mais ils ne sont pas du domaine créé. Ils sont incréés, immortels et éternels, sans commencement ni fin de vie. Et nous ne pouvons pas dire, cela nous dépasse infiniment, si le Père pourrait être sans le Fils, et si le Père et le Fils pourraient être sans l'Esprit Saint. Toujours est-il qu'il n'y a qu'un seul Dieu vivant, c'est vrai, en trois personnes, un Dieu unique, trois fois saint, qui vit et qui agit au travers de sa diversité, Père, Fils et Saint-Esprit. Il vit et il agit constamment, infiniment, indéfiniment, éternellement, car en lui est la vie éternelle, l'être permanent et le mouvement. Amen. L'homme a bien voulu essayer d'imaginer, de créer le mouvement perpétuel, mais il n'y arrive pas. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit est l'éternel je suis. Et pourtant, Dieu ne grandit pas. Dieu ne vieillit pas. Il ne se multiplie pas. Il ne change pas. Il n'y a en lui aucune ombre de variation. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Cependant, il n'est pas moribond, inerte, figé et fixé dans l'immobilité absolue, mais il vit, il pense, il agit, il se réjouit et s'épanouit en lui-même. Il se suffit à lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, et infiniment plus encore. Tout en étant un seul et unique Dieu. D'ailleurs, bien que Dieu existe en trois personnes, il n'y a pas plusieurs dieux, ni deux, ni trois, ni plus, car la pluralité de Dieu est une impossibilité absolue. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique. Mais pourquoi un seul Dieu vivant est vrai? Oui, pourquoi? Parce qu'alors, Dieu ne serait pas saint, trois fois saint, c'est-à-dire le tout autre, l'incomparable, l'unique, au-dessus de tous, le Dieu très haut, invisible, inaccessible, indestructible, celui qu'on ne peut voir ni saisir sans mourir, celui qui est au-dessus des anges, au-dessus des hommes, de tout ce qui vit et respire, le seul maître et seigneur qui ne doit rendre compte à personne. Il est aussi au-delà de tout, au-delà du temps et de l'espace, au-delà de l'univers qu'il a créé. Il est plus élevé que les cieux des cieux. Son trône est au ciel, la terre est son marchepied. Il est le seul Dieu créateur, tout sage, tout puissant, partout présent. Il règne et domine sur toute chose, dans le ciel et sur la terre, car tout a été créé, tout a été fait par lui, et tout subsiste en lui et pour sa gloire. Rien ni personne ne peut s'opposer à lui. Rien ni personne ne peut contrecarrer ses desseins. Tout ce qu'il dit se réalise. Sa volonté se fait sur la terre comme au ciel, car justement, il est le tout autre. Il est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Il est bon et il n'y a aucun mal en lui. Il est amour et il n'y a aucune iniquité en lui. Il est juste et il n'y a aucune injustice en lui. Bref, s'il n'était pas ce qu'il est, il n'y aurait pas de Dieu. Pas de Dieu du tout, puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. Et si le Dieu unique n'existait pas, rien n'existerait. Mais alors pourquoi, dira quelqu'un, Dieu existe-t-il plutôt que pas ? Pourquoi y a-t-il un Dieu plutôt que rien? Qui peut sonder ce mystère? Mais maintenant, Dieu, vous voulez le dire? Pardon? Oui, bien sûr. Mais maintenant, Dieu existe.
Il est vivant.
Amen. Il est le seul et unique Dieu, omniscient, omnipotent, omniprésent, le créateur de l'univers et le seigneur du monde, le seul Dieu sauveur et rédempteur, Père, Fils et Saint-Esprit, et Satan le savait bien. Sinon, il ne se serait pas révolté. Et quand le diable a dit à l'homme et à la femme, si vous mangez du fruit défendu, vous serez comme Dieu, il a menti effrontément. Il a trompé nos premiers parents méchamment, parce que précisément, il voulait au travers de l'humanité que Dieu a créée, s'emparer du règne de Dieu et s'asseoir sur le trône de la majesté divine à la place de Dieu. Pour être lui l'ennemi invétéré de Dieu, le seul et unique Dieu adoré et servi par tous les hommes. Le malin. C'est pour ça qu'il est appelé le malin. Ainsi donc, il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et par conséquent, je répète, ainsi donc, il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et par conséquent, un seul genre humain. Il n'y en a pas 36, ou deux. Un homme qui descend de Dieu, enfin un homme créé par Dieu, et l'autre qui descend du singe. Mais le blagueur, il a dit, le singe descend de l'arbre. Bon. Trêve de plaisanterie. Ainsi donc, il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et par conséquent, un seul genre humain, homme, femme et enfant, créé à l'image de Dieu. Car Dieu ne peut rien dire, Dieu ne peut rien faire qui ne soit pas conforme à sa divinité, ou si vous voulez, à sa triunité divine, puisqu'il est la source et le modèle de toutes choses, non pas formellement, mais essentiellement et spirituellement pour les êtres humains, car Dieu est esprit et vie. C'est pourquoi aussi, toute la création et toutes les créatures dans le ciel, sous la terre et sur la terre sont appelées à rendre gloire à Dieu, à l'aimer et à le servir selon sa volonté parfaite, afin que le nom de Dieu soit sanctifié. C'est-à-dire mis à part, reconnu comme celui qui est le tout autre, le seul Seigneur de l'univers, à qui nul n'est semblable, devant qui tout genou fléchira, et toute langue doit confesser ce qu'il est, en un mot, le seul et unique Dieu, digne d'être adoré, loué, obéi, car il sera aussi l'unique juge suprême de toute créature, qui jugera, toute créature et qui rendra à chacun ou à chaque créature selon ses œuvres. C'est pourquoi encore, il n'y a qu'un seul Dieu, Père, Fils, Dieu est Père, qu'un seul Fils, Jésus le Sauveur et le Seigneur, qu'un seul Esprit qui instruit et conduit une seule Église, une seule épouse de Christ, qui est son propre corps, donc comme on a entendu tout à l'heure, et dont il est la tête, la seule et unique tête. Il n'y a qu'un seul royaume éternel, une seule maison céleste, un seul héritage, tout cela et plus encore, en Dieu seul, qui sera un jour tout et en tous, et à tout jamais. Si donc la pluralité de Dieu était possible, alors quel serait le vrai Dieu? Le juste, le bon, celui qui est amour, qui ne ment pas, qui ne trompe pas, celui qui est vraiment au-dessus des autres, bref, comment les hommes sauraient-ils lequel de tous ces dieux ils doivent adorer? Et comme le dit le dicton populaire, ils ne sauraient plus à quel saint se vouer. Ainsi, nous voyons par là que la logique même la plus élémentaire plaide nettement en faveur de l'unicité de Dieu et par voie de conséquence en faveur de l'unicité du genre humain créé à l'image de Dieu, avec tout ce que cela implique de relation avec Dieu, de soumission à sa parole et d'adoration en son honneur, car à tout Seigneur, tout honneur. Et c'est là que le bât blesse. Chers frères et sœurs, les mille et un dieux que les hommes ont inventés et fabriqués ne sont que des idoles muettes et sans force. Elles ne sont que des images, des reflets de leur nature mauvaise et méchante, corrompues par le péché. Elles ne sont que vent et néant, suscités dans les pensées de l'homme sans Dieu, de l'homme privé du seul Dieu vivant est vrai, privé par le malin. Elles sont donc conçues, ces idoles, par son esprit dégénéré, sous l'instigation de Satan, afin de multiplier les faux dieux et de jeter la confusion dans l'humanité perdue, qui malheureusement, à cause de cela, ne sait plus qui est le vrai Dieu. Et se jette à corps perdu dans n'importe quel culte idolâtre, pourvu que son besoin légitime d'adoration soit satisfait. C'est ce qui a donné un nombre infini de religions, de sectes, de doctrines, de mouvements irrationnels, émotionnels, sensationnels, ésotériques, diaboliques, démoniaques et que sais-je encore. Toutes ces hérésies sont contrôlées et dirigées par des faux dieux, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux docteurs, des faux ouvriers, des faux frères. Et ils sont tous à la solde du diable et de ses démons, propageant dans le monde le culte de Mammon, de l'immoralité, de l'égoïsme et de l'orgueil déplacé et démesuré, faisant de l'homme une bête sauvage qui se vautre dans la boue du péché. Et si l'homme en est arrivé là, c'est parce qu'il refuse Le seul Dieu vivant est vrai, rejette sa parole, préférant les ténèbres du péché avec tous ses plaisirs trompeurs à la lumière divine de la vérité qui veut le ramener à la raison, lui accorder la repentance et le sauver de l'enfer et de la mort vers laquelle il se précipite s'il ne revient pas à Dieu de tout son cœur afin de l'adorer, lui et lui seul. Selon qu'il est dit, tu auras 15 000 dieux devant ma face, mais pas plus. Selon qu'il est dit, tu n'auras pas d'autre dieu au singulier devant ma face. Mais pour nous chrétiens, régénérés par l'Esprit, sauvés par la grâce de Dieu, instruits par la parole. Tout cela est du passé. Nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées, elles sont dépassées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous marchons maintenant non plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Toutefois, il y a un bémol. À cause du péché qui est encore en nous, à cause de notre sanctification qui n'a pas encore atteint la perfection, nous sommes encore vulnérables, capables, si nous ne veillons pas et si nous ne prions pas, de succomber aux tentations du diable et de tomber encore dans des pensées charnelles qui font la guerre à l'âme. Et par conséquent, nous nous conformons encore au siècle présent. Parce que nous ne nous sommes pas laissés transformer par le renouvellement de l'intelligence afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ici, la condition de vie humaine venant de Dieu, la distinction entre les différentes personnes du couple et de la famille, l'ordre relationnel à l'intérieur du couple, le rôle respectif des uns et des autres, la hiérarchie. Ah, voilà un mot qui fait sursauter, qui produit la colère. La hiérarchie voulue et instituée par Dieu dans le genre humain, créée à sa ressemblance, sont de plus en plus remises en question, également dans le monde chrétien et jusque dans les milieux évangéliques. C'est pourquoi, après avoir développé brièvement la ressemblance de l'homme avec Dieu dans sa vie, son mouvement et son être, ainsi que dans son unité et sa diversité à l'image de Dieu, au travers de sa relation implicite avec son Créateur, son Dieu, son Père, en Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, selon que Jésus l'a dit à Marie, « Je monte vers mon Père et votre Père. Je monte vers mon Dieu et votre Dieu. » Donc, après la ressemblance de l'homme avec Dieu, dans la vie en général, je voudrais maintenant partager avec vous un deuxième élément de ressemblance qui a aussi des implications et des répercussions pratiques dans la vie du couple. Premier élément, une même condition de vie dans le genre humain comme dans l'être divin. Deuxième élément, une même distinction dans le genre humain comme dans l'être divin. Le fait que Dieu soit unique et que les trois personnes de la Trinité divine soient parfaitement unies dans leur nature divine respective n'empêche pas que Dieu le Père soit distinct de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Que Dieu le Fils soit distinct de Dieu le Père et de Dieu le Saint-Esprit et que Dieu le Saint-Esprit soit distinct de Dieu le Père et de Dieu le Fils. En d'autres termes, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils, ni le Saint-Esprit. Le Fils n'est pas le Père, ni le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est pas le Père, ni le Fils. Ils sont chacun distincts des autres, ayant la même nature divine, mais chaque personne de la Trinité divine possède un ministère particulier et différent, sans que cela nuise à l'unité intrinsèque de Dieu et n'enlève quoi que ce soit à l'unicité de Dieu, c'est-à-dire au fait qu'il soit unique. Qui peut comprendre cela? Ne cherchez pas à comprendre. C'est ici le mystère de Dieu, qui étant absolument un seul et unique Dieu, est en même temps un Dieu en trois personnes, qui sont distinctes les unes des autres, qui existent et demeurent dans une unité sans faille et sans confusion, afin de se développer à l'infini et infiniment, puisque son unité fondamentale aussi est infinie et se fonde encore et toujours et indéfiniment. Il y a en Israël des arbres dont les racines sont aussi profondes que la cime. Et puisque Dieu a des racines infiniment profondes, sa cime peut être infiniment haute. Il y a donc unité et diversité. Et comme nous le disions précédemment, c'est ici la vie. Avec un grand V. En effet, Dieu peut se diversifier, se développer à l'infini et indéfiniment, puisque son unité fondamentale aussi est infinie et se fonde encore et indéfiniment. Ce que l'Écriture veut nous enseigner, frères et sœurs, c'est que l'unité sans la diversité, c'est la mort. Et que la diversité sans l'unité, c'est aussi la mort. Car à quoi sert l'unité s'il n'y a pas de diversité à unir, à tenir, à maintenir? L'unité toute seule meurt de solitude, comme Adam s'il était resté seul. Et à quoi sert la diversité s'il n'y a pas d'unité qui la tient et la retient, comme des enfants délaissés et laissés à eux-mêmes, ils sont emportés par le vent dans le néant de la mort, éparpillés aux quatre coins du monde. Ainsi donc, si Dieu est un en trois personnes, c'est pour que la vie se manifeste en lui, par lui et pour lui, dans l'unité et la diversité qui fait vivre. Sinon, si tout est figé, rigide et fixe d'une manière inébranlable, irrévocable, ou si tout est éparpillé, emporté au gré des vents et des flots, où donc sera la vie? Voilà pourquoi Dieu est un en trois personnes. Parce que la vie, justement, est une unité et une diversité. Ainsi donc, si l'homme est en trois éléments, corps, âme et esprit, si l'homme et la femme sont un couple, une seule chair, si les différentes personnes issues du couple forment avec lui une seule famille, alors la vie se manifeste, selon Dieu, dans l'unité et la diversité qui fait vivre, qui enrichit, qui épanouit, et chacun trouve sa place dans une même position devant Dieu et dans des fonctions différentes, toujours selon Dieu. Il y a donc une même condition de vie, mais différentes fonctions dans la vie pour qu'à l'instar de la Trinité divine, l'homme, le couple, la famille, la société, l'Église corps de Christ vivent dans l'unité, la diversité, la relation interpersonnelle, la communion fraternelle, la complémentarité, la solidarité, et que sais-je encore. Mais c'est extraordinaire! Extraordinaire! Vous pensez que le hasard aurait pu faire une chose pareille? Mon œil! C'est pourquoi il n'est pas dans la pensée de Dieu que tout soit uniforme, unisson, unicouleur. J'ai inventé ces mots parce que je ne sais pas comment dire, je ne sais pas. Que tout soit uniforme, oui, je connais, unissant aussi, unicouleur, univision, pour que règne l'unité. Car il suffit de considérer la création pour constater la diversité infinie de Dieu dans ses œuvres. Et tout subsiste en lui, uni en lui. Dieu n'a-t-il fait que des choux? On serait bien malheureux, hein? Il n'y aurait que de la soupe aux choux, de la soupe aux choux, de la soupe aux choux. Il est aussi instructif de considérer l'humanité tout entière pour se rendre compte de la même diversité dans la volonté de Dieu pour ses créatures. Car il n'y a pas un être humain qui est identique à l'autre être humain. S'il y avait tout des Joseph, vous diriez, oh là 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 là, quelle vie! Vous vous rendez compte? Ce serait insupportable, invivable. Mais il y en a des autres. Et c'est tant mieux. C'est pourquoi encore, il n'est pas dans la pensée de Dieu que les choses soient difformes, déformées ou informes, vides, surtout pas les êtres humains. Mais si cela existe, c'est à cause du péché qui a tout dénaturé, défiguré, rendant l'image de Dieu dans l'homme méconnaissable. Et ici, nous comprenons les implications qui existent pour le genre humain du fait qu'il a été créé à la ressemblance de Dieu, dans une condition de vie unique au genre humain et unie à Dieu, dans des fonctions multiples dans la vie, des ministères divers et variés, comme en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, pardon, et cela dans une harmonie parfaite, sans uniformité forcée, sans unisson, univoix imposée, sans unigoût, unicouleur exigée, mais dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Selon qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra esclave des traditions, des hommes, de toutes sortes de choses. Et la vérité vous affranchira. Mais de quoi? De nous-mêmes et de toutes les traditions des hommes qui imposent leurs préceptes, ne mangez pas, ne goûtez pas, ne prenez pas, ne vous mariez pas, etc. Mais ces ordonnances n'ont pas de valeur devant Dieu, puisqu'elles ne sont pas conformes à la vie divine, modèle de la vie humaine qui se développe et s'épanouit dans le bonheur de la liberté et dans la joie de la diversité vécue dans l'unité. Mettez votre ceinture. Ça peut trembler, mais j'ai bientôt fini. En effet, le mari est homme, il n'est ni femme ni enfant. L'épouse est femme, elle n'est ni homme ni enfant. L'enfant est enfant, il n'est ni père ni mère. Quand bien même ils sont tous des êtres humains à part entière, dans une même condition de vie et position devant Dieu, avec des dons différents, des fonctions diverses et variées, pour la gloire de Dieu. Mais si les hommes corrompus par le péché changent l'ordre divin de la création et qu'ils se mettent à trafiquer l'être humain comme ils trafiquent la parole de Dieu, honte à eux! Modifiant le plan de Dieu pour le couple, en intervertissant non seulement le rôle respectif de l'homme et de la femme, mais en transformant l'homme en femme, la femme en homme, ou en homme-femme, ou en femme-homme, ou encore en changeant la relation maritale homme-femme, devenant homosexuel, masculin ou féminin, tout cela est plus encore d'une manière 10 fois pire que les habitants de Sodome et de Gomorre. Vous pouvez enlever la ceinture. Alors il est évident que la mort se manifeste, puisque l'ordre de Dieu n'est plus respecté, et cela jusque dans les milieux évangéliques. Car beaucoup de chrétiens aujourd'hui se permettent tout et n'importe quoi. Il n'est pas étonnant dès lors que l'apostasie soit en marche, que l'anarchie se propage de plus en plus dans le monde religieux ou non, et que la ruine soudaine guette les hommes pour les surprendre dans leur indifférence par rapport à Dieu. Et Jésus nous a prévenus, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il la trouvera, mais quelle foi! Une foi dénaturée, dégradée, dépravée, complètement vidée de son contenu divin, une foi qui produit non la vie mais la mort, parce qu'elle ne vient pas de Dieu, mais des hommes qui ont perverti la parole de Dieu, comme les Juifs autrefois ont perverti la loi de Dieu. C'est ici le signe de la fin des temps. Comme c'était autrefois le signe que le temps des nations était venu, maintenant ce temps touche à sa fin, le temps des nations. Et nous n'oublions pas, le jugement de Dieu commence. Oui ?
par la maison de Dieu. Et cela est manifeste, car il se passe des choses dans les églises, des choses que je n'ose pas mentionner en public. Car celui qui n'accepte pas la tolérance qui prévaut actuellement, c'est-à-dire qui n'accepte pas que la normalité soit en voie de disparition et que la normalité soit en plein essor, en un mot que la norme humaine est érigée en idole universelle, au détriment de la norme divine, qui est rabaissée au rang de simple morale, celui-là ou celle-ci qui n'accepte pas cet état de fait ou qui revendique un retour à la soumission de Dieu, cette personne, aujourd'hui, mérite la mort. On tue pour cela. Peut-être pas avec le fusil. En effet, en ce qui concerne l'homme au masculin, l'homme au féminin, le mariage, le couple, la famille, tout est chamboulé. Tout est chambardé, bouleversé, banalisé, sécularisé et profané. Et cette révolte contre Dieu, le fait que le péché se manifeste encore une fois, une dernière fois, dans sa dimension extrême, ce fait est la preuve que l'imminence du retour de Jésus-Christ, de l'imminence du retour de Jésus-Christ, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Que dis-je ? Dieu habille l'homme, l'homme se déshabille. La nudité n'est plus une honte, mais une fierté, et la pudeur n'existe plus. C'est le péché dans son arrogance honteuse et orgueilleuse. Dieu fait l'homme, l'homme se fait femme. Dieu fait la femme se fait homme. Dieu ordonne aux enfants d'être soumis à leurs parents, les enfants prennent les parents en otage. C'est encore la conséquence du péché dans toute son horreur répugnante et dans toute sa fureur meurtrière. La distinction voulue par Dieu entre l'homme et la femme dans le couple, les parents, les enfants, telle qu'elle existe en Dieu, n'est plus. L'homme rejette tout en bloc. Dieu, la Bible, la croix de Christ, la foi, l'Église, et même le témoignage des chrétiens vivants qui marchent à contre-courant. Bref, c'est le monde à l'envers. Il est tombé en arrière à la renverse et il terminera brutalement et subitement sa chute dans l'enfer éternel. Frères et sœurs, le tableau que j'ai brossé est sombre, mais il est réel. La nuit est avancée. Le jour de la gloire va bientôt luire. Levons nos têtes. C'est pourquoi, en attendant l'avènement du Seigneur, faisons diligence pour mettre en œuvre notre salut, pour marcher dans la sanctification, ce qui sera de notre part un culte raisonnable, le seul agréable à Dieu. Et ainsi nous serons gardés de cette tentation qui éprouve les habitants de la terre et nous remporterons la couronne des vainqueurs. Et nous remporterons la couronne des vainqueurs. À Dieu soit la gloire. Amen. La suite, si Dieu veut et si nous vivons, une autre fois.